La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Ce matin, les drones imposent une nouvelle manière de faire la guerre.
Et ils redéfinissent aussi les rapports de force. C'est une analyse à lire dans The Guardian. Rapports de force dans des conflits mondiaux, pour la plupart asymétriques, nous dit-on, entre l'armée suréquipée d'une grande puissance et des groupes rebelles surpassés sur le plan technologique. Les attaques contre des sites pétroliers ce week-end en Arabie Saoudite l'ont prouvé. D'où qu'ils viennent, les drones sont devenus en quelques années l'arme des pauvres. En ce qu'ils sont petits, pas chers, discrets et très durs à détecter. Avec leur avènement, la nature même des conflits est bouleversée, en particulier au Moyen-Orient. Fini la suprématie de l'aviation militaire à laquelle les poids lourds régionaux consacraient des milliards pour imposer leur domination des airs. À l'image de l'armée saoudienne, ils sont désormais pris à défaut. Leurs radars, leurs systèmes d'alerte, leur défense aérienne rendue quasi caduque par les petits appareils sans pilote. C'est clair, confirme The Middle East Eye dans sa version française. Sans drone, il aurait été inimaginable que des installations pétrolières saoudiennes, aussi stratégiques que celles détruites samedi, aient pu être rendues aussi vulnérables. Sans cette aviation à bas coût, jamais le gouvernement d'union nationale libyen n'aurait réussi à repousser l'avancée du maréchal Haftar vers Tripoli, et jamais Israël n'aurait pu mener aussi loin en Syrie, en Irak, des opérations contre les milices armées pro-iraniennes. Et pourtant, c'est encore The Middle East Eye qui le rappelle. Les drones de guerre, ça ne date pas d'hier. Déjà, les Américains en utilisaient pour des missions de reconnaissance au Vietnam, mais les premiers modèles armés ont fait leur apparition pendant la guerre Iran-Irak, à partir donc de 1980. Et ce sont les Iraniens qui ont été les premiers à en faire usage. La première guerre du Golfe a ensuite vu l'avènement des drones de combat américain. Israël s'y est rapidement mis aussi pour pallier son manque de soldats. Mais la grande évolution de la dernière décennie, c'est que ce ne sont plus seulement les armées des pays riches qui ont les moyens de s'équiper.
Et à tel point qu'aujourd'hui, il n'est plus un conflit à travers le monde où il n'est pas question de drones, Camille.
Et ça se retrouve dans la presse internationale. On a déjà parlé d'Israël, mais à lire le Jérusalem Post de la semaine dernière, on comprend que désormais, les combattants du djihad islamique à Gaza possèdent des drones. Et par trois fois, déjà, ils en ont fait usage contre des tanks postés juste de l'autre côté de la frontière. Ça leur donne une précision, nous explique-t-on, qu'ils ne maîtrisaient pas jusque-là dans les attaques contre les positions israéliennes, et ça oblige l'armée d'Israël à repenser sa défense anti-aérienne. Au Nigeria, révélation du New York Times, les terroristes islamistes de Boko Haram sont de retour dans la région du lac Tchad. Ils contrôlent 4 secteurs sur 10 dans l'état de Borno et ils mènent des attaques presque chaque jour. Cela fait 10 ans qu'ils sèment la mort dans la région en toute impunité, écrit la reporter du Times, Diane Sarsay. Mais depuis peu, l'arsenal de Boko Haram s'est renforcé. Ils possèdent des drones beaucoup plus puissants et destructeurs que ceux de l'armée nigériane censée les combattre. Enfin, dans le South China Morning Post à Hong Kong, on apprend ce matin que la Chine est fière de présenter son dernier né, un drone espion supersonique baptisé DR-8, déjà visible le week-end dernier lors des répétitions du grand défilé militaire des 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. Le défilé aura lieu le 1er octobre. Le DR-8, explique Pékin, serait appelé à jouer un rôle décisif en cas de guerre contre les États-Unis dans la mer de Chine du Sud ou bien dans le Pacifique Ouest. Que de charmantes perspectives. D'ailleurs, ce nouveau drone furtif chinois un design tout plat qui en rappelle un autre. Il est inspiré du D-21, un modèle américain utilisé dans les années 70 pour espionner l'armée chinoise.
Et dans la presse tchèque à présent, on s'intéresse de près au bras de fer qui oppose les journalistes français du Monde à leur nouvel actionnaire Daniel Křetínský.
Oui, car Křetínský, ce n'est pas n'importe qui en République tchèque. Il possède la 5e fortune du pays. Elle se compte en milliards d'euros et il l'a bâtie en investissant dans le gaz, dans le charbon et l'électricité. Mais Daniel Křetínský, à Prague, c'est aussi le propriétaire de Czech News Center, un groupe de médias qu'il a racheté en 2013 et qui possède plusieurs des principaux quotidiens et magazines du pays. Or donc, les questions d'indépendance de ces médias se posent régulièrement. Et ce n'est pas sans intérêt que les journalistes tchèques regardent la manière dont leur milliardaire, nouvel actionnaire du Monde, refuse de signer un accord avec la rédaction française pour garantir justement l'indépendance éditoriale de celle-ci. Ça fait 11 mois que ça dure, nous explique l'hebdo Tidienne, et les les équipes du Monde ont donné jusqu'à aujourd'hui, mardi, à l'homme d'affaires tchèque pour rendre sa décision. Le simple fait qu'un journal tienne tête à l'un de ses actionnaires, qu'il demande à être consulté avant tout changement de propriétaire, eh bien, tout ça semble quelque peu incongru, vu depuis Prague. D'ailleurs, pour Andrei Neumann, du site de critique des médias Lidasi Pech, ça veut dire le chien de garde en tchèque, ce qui se joue en ce moment à Paris donne une leçon d'indépendance aux journalistes tchèques et à Daniel Křetínský par la même occasion. C'est très inspirant, écrit Neumann, dans une République tchèque où depuis 6 ans, les plus riches des hommes d'affaires, à commencer par le Premier ministre Andrej Babiš, ont tous voulu se payer des journaux comme des jouets d'enfants gâtés pour servir leurs intérêts politiques et économiques.
Le Monde et sa croisade rappellent donc aux Tchèques que les journaux, l'information ne sont pas un business comme un autre.
C'est ça, et la presse aussi, c'est un rappel, joue un rôle irremplaçable dans nos sociétés démocratiques. Elle doit donc être tenue loin des intérêts de ses propriétaires, que ce soit l'État ou les oligarques. Alors, on va quand même tempérer l'enthousiaste d'Andrei Neumann. La France n'est plus vraiment un modèle en la matière. Mais l'affaire Le Monde Křetínský pose tout de même une question de fond, lit-on enfin dans cet article tchèque. Pour qui les journalistes doivent-ils écrire? Pas en tout cas pour les intérêts financiers de leurs propriétaires. La question est d'autant plus sensible, note The Financial Times, que Daniel Křetínský a fait fortune, on l'a dit, dans les énergies fossiles, notamment en rachetant des centrales à charbon dans toute l'Europe, France incluse. Et forcément, ça fait un peu tâche sur un journal, Le Monde, qui se fait fort de mettre les questions d'environnement et de climat au cœur de sa ligne éditoriale.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.